Alexandre VI, qui, comme on le pense, n'avait point été étranger, sinon de sa personne, du moins par son influence, à ce rapide et étrange revirement, eut à peine appris la chute et l'arrestation de Savonarole qu'il le réclama comme relevant de la justice ecclésiastique. Mais malgré les indulgences dont le pape accompagnait cette demande, la seigneurie exigea que le procès de Savonarole fût instruit à Florence, et pour ne point paraître entièrement soustraire le coupable à la juridiction pontificale, elle demanda au pape d'adjoindre au tribunal florentin deux juges ecclésiastiques. Alexandre VI, voyant qu'il n'obtiendrait pas autre chose de la magnifique République, députa auprès d'elle Joachim Turiano de Venise, général des Dominicains, et François Ramolini, docteur en droit. Ils étaient d'avance porteurs de la teneur du jugement, qui déclarait Savonarole et ses complices hérétiques, schismatiques, persécuteurs de la Sainte Église et séducteurs des peuples. Au reste, cette fermeté des Florentins dans la réclamation de leurs droits comme juges n'était qu'une vaine démonstration pour sauver les apparences. Le tribunal était composé de 8 membres, tous connus pour ardents ennemis de Savonarole, dont le procès avait commencé par la torture. Il en résulte que Savonarole, faible de corps et d'une constitution irritable et nerveuse, n'avait pu soutenir la question de la corde et, vaincu par la douleur au moment où, enlevé de terre par les poignets, le bourreau l'avait laissé retomber jusqu'à 2 pieds du sol, il avait avoué, pour obtenir quelque relâche, que ses prophéties étaient de simples conjectures. Il est vrai qu'aussitôt rentré dans sa prison, il avait protesté contre cet aveu, disant que c'était la faiblesse de ses organes et son peu de constance à supporter les tourments qui lui avaient arraché ce mensonge, mais que la vérité était que le Seigneur lui était plusieurs fois apparu dans ses extases et lui avait révélé les choses qu'il avait dites. Cette protestation avait amené une nouvelle application à la torture, application pendant laquelle Savonarole avait succombé de nouveau à la force de la douleur et s'était rétracté. Mais à peine délié, et comme il était encore couché sur le matelas de la question, il déclara que ses aveux étaient l'œuvre de ses bourreaux et retomberaient sur leur tête, mais que, quant à lui, il protestait de nouveau contre tout ce qu'il avait pu et pourrait dire. En effet, la torture avait pour la 3e fois ramené les mêmes aveux et le repos qu'il avait suivi, la même rétractation, de sorte que les juges, après l'avoir condamné, lui et ses 2 disciples, au feu, décidèrent que sa confession ne serait pas lue à haute voix sur le bûcher, comme c'était la coutume, certains qu'ils étaient que, cette fois comme les autres, elle serait démentie par lui et démentie publiquement, ce qui pouvait être, pour quiconque connaît l'esprit versatile de la multitude, une chose du plus mauvais effet. Le 23 mai, le bûcher qui avait été promis au peuple s'éleva de nouveau sur la place, et cette fois, la multitude se rassembla, certaine qu'elle ne serait pas frustrée de ce spectacle si longtemps attendu. En effet, vers les 11 heures du matin, Jérôme Savonarole, Dominique Bonvicini et Sylvestre Maruffi furent amenés sur le lieu de l'exécution et, après avoir été dégradés de leurs ordres par les juges ecclésiastiques, furent, au centre d'une immense pile de bois, attachés tous 3 au même pieu. Alors l'évêque Pagnanoli déclara aux condamnés qu'il les séparait de l'Église. « De la militante, » répondit Savonarole, qui, dès 7 heures, entrait en effet, grâce à son martyre, dans l'église triomphante. Ce fut tout ce que dirent les condamnés, car en ce moment, un arrabbiato, ennemi personnel de Savonarole, ayant franchi la haie que formaient les gardes autour de l'échafaud, arracha la torche des mains du bourreau et mit lui-même le feu aux 4 coins du bûcher. Quant à Savonarole et à ses disciples, dès qu'ils virent la fumée s'élever, ils se mirent à chanter un psaume, et la flamme les enveloppait déjà de tous côtés de son voile ardent, que l'on entendait encore le chant religieux qui allait frapper pour eux à la porte du ciel. Ainsi se trouva débarrassé du plus terrible ennemi qui se fût jamais levé contre lui peut-être, le pape Alexandre VI. Aussi la vengeance pontificale poursuivit-elle les condamnés jusqu'après leur mort. La seigneurie, cédant à ses instances, avait donné des ordres pour que les cendres du prophète et de ses disciples fussent jetées dans l'Arno. Mais quelques ossements à demi brûlés furent recueillis par les soldats mêmes qui avaient mission d'empêcher le peuple d'approcher du bûcher, et ces reliques saintes, aujourd'hui encore, sont exposées, toute noircie par les flammes, à l'adoration des fidèles, qui, s'ils ne regardent plus Savonarole comme un prophète, le regardent au moins comme un martyr. Cependant, l'armée française s'apprêtait une seconde fois à passer les Alpes sous le commandement de Jacques Trivulf. Le roi Louis XII était venu accompagner jusqu'à Lyon César Borgia et Julien de la Rovère, qu'il avait forcé de se réconcilier, et vers le commencement du mois de mai, avait fait partir devant lui son avant-garde, que suivit bientôt le corps d'armée. Les forces du roi de France pour cette seconde conquête se composaient de 1600 lances, de 5000 Suisses, de 4000 Gascons et de 3500 soldats de pied, levés dans toutes les parties de la France. Le 13 août, toute cette assemblée, qui montait à 15 000 hommes à peu près, et qui devait combiner ses mouvements avec ceux des Vénitiens, arriva sous les murs d'Arezzo et mit aussitôt le siège devant la ville. La position de Ludovic Sforza était terrible, et il portait à cette heure la peine de l'imprudence qu'il avait commise en appelant les Français en Italie. Tous les alliés, sur lesquels il croyait pouvoir compter, lui manquaient à la fois, soit qu'ils fussent occupés de leurs propres affaires, soit qu'ils fussent intimidés par le puissant ennemi que s'était fait le duc de Milan. En effet, Maximilien, qui lui avait promis de lui envoyer 400 lances, au lieu de reprendre les hostilités interrompues avec Louis XII, venait de se liguer avec le cercle de Souabe pour faire la guerre aux Suisses qu'il avait déclarés rebelles à l'Empire. Les Florentins, qui s'étaient engagés à lui fournir 300 hommes d'armes et 2000 hommes d'infanterie s'il voulait les aider à reprendre Pise, venaient de retirer leurs paroles sur les menaces que leur avait faites Louis XII et avaient promis à ce souverain de rester neutre. Enfin, Frédéric, qui gardait ses troupes pour ses propres états, parce qu'il se figurait avec raison que, Milan conquise, il aurait de nouveau à défendre Naples, ne lui envoyait, malgré ses promesses, aucun secours ni d'hommes ni d'argent. Ludovic Sforza en était donc réduit à ses propres forces. Cependant, comme c'était un homme puissant dans les armes et habile dans la ruse, il ne se laissa point abattre du premier coup et fit fortifier en toute diligence Annone, Novare et Alexandrie, envoya Caiazzo avec quelques troupes dans la partie du Milanais qui confine aux états de Venise et ramena sur le Pô tout ce qu'il avait de force. Mais ces précautions furent inutiles contre l'impétuosité française. En quelques jours, Arezzo, Annone, Novare, Voghiera, Castelnuovo, Ponte Corona, Tortone et Alexandrie furent prises et Trivulf marcha sur Milan. En voyant cette conquête rapide et ses victoires multipliées, Ludovic Sforza, désespérant de tenir dans sa capitale, résolut de se retirer en Allemagne avec ses enfants, le cardinal Ascanio son frère et son trésor, qui en 8 ans était tombé de 1 500 000 à 200 000 ducats. Mais avant de partir, il laissa la garde du château de Milan à Bernardino da Corte. En vain ses amis lui dirent de se défier de cet homme, en vain son frère Ascanio s'offrit-il de s'enfermer dans cette forteresse, s'engageant à y tenir jusqu'à la dernière extrémité. Ludovic ne voulut rien changer à cette disposition et partit le 2 septembre, laissant dans la citadelle 3 000 hommes de pied et assez de vivres, de munitions et d'argent pour soutenir un siège de plusieurs mois. Le surlendemain de ce départ, les Français entrèrent à Milan. 10 jours après, sans qu'il fût tiré contre lui un seul coup de canon, Bernardino da Corte rendit le château. 21 jours avaient suffi aux Français pour s'emparer des places de la capitale et de tous les états de leur ennemi. Louis XII reçut à Lyon la nouvelle du succès de ses armes et partit aussitôt pour Milan, où il fut accueilli avec toutes les démonstrations d'une joie sincère. Tous les ordres de citoyens s'étaient avancés jusqu'à 3 000 hors des portes pour le recevoir, et 40 enfants, revêtus de draps d'or et de soie, le précédèrent en chantant des hymnes des poètes de l'époque, qu'il appelait le roi libérateur et l'envoyé de la liberté. Cette grande joie des Milanais venait de ce que les partisans de Louis XII avaient répandu d'avance le bruit que le roi de France était assez riche pour abolir tous les impôts. En effet, dès le lendemain de son entrée dans la ville, le vainqueur fit sur eux une légère réduction, accorda de grandes grâces à plusieurs gentilshommes milanais et donna à Trivulf, pour le récompenser de cette rapide et glorieuse campagne, la ville de Vigavano. Cependant, César Borgia, qui avait suivi Louis XII pour avoir sa part dans la grande curée italienne, le vit à peine arrivé au but qu'il se proposait, qu'il réclama de lui la promesse qu'il lui avait faite, promesse que le roi de France, avec sa loyauté toute proverbiale, se hâta d'accomplir. En effet, il mit à l'instant même à la disposition de César Borgia 300 lances commandées par Yves d'Allègre et 4000 Suisses sous les ordres du bailli de Dijon pour l'aider à réduire les vicaires de l'Église. Expliquons à nos lecteurs ce que c'était que les nouveaux personnages que nous introduisons en scène et que nous désignons sous ce nom. Pendant les éternelles guerres des Guelfes et des Gibelins et pendant le long exil des papes à Avignon, la plupart des villes ou des forteresses de la Romagne avaient été conquises ou usurpées par de petits tyrans qui avaient pour la plupart reçu de l'Empire l'investiture de leurs nouvelles possessions. Mais depuis que l'influence allemande avait repassé les monts et que les papes avaient refait de Rome le centre du monde chrétien, tous ces petits princes, privés de leur appui primitif, s'étaient ralliés au Saint-Siège, avaient reçu une nouvelle investiture des mains pontificales et payaient une redevance annuelle grâce à laquelle ils recevaient le titre particulier de duc, de comtes ou de seigneurs et la dénomination générale de vicaire de l'Église. Or, il avait été facile à Alexandre VI, en relevant scrupuleusement les faits et gestes de chacun de ces messieurs depuis 7 ans, c'est-à-dire depuis son exaltation au trône de Saint-Pierre, de trouver dans la conduite de chacun d'eux quelque petite effraction au traité passé entre les vassaux et le suzerain. Ils avaient donc présenté ces griefs devant un tribunal établi à cet effet et obtenu des juges sentence qui déclarait que les vicaires de l'Église, ayant manqué aux conditions de leur investiture, étaient dépouillés de leur domaine qui rentrait en possession du Saint-Siège. Mais comme le pape avait affaire à des hommes contre lesquels il était plus facile de porter un pareil jugement que de l'exécuter, il avait nommé pour son capitaine général et avec charge de les recouvrer pour lui-même le nouveau duc de Valentinois. Ces seigneurs étaient les Malatesti de Rimini, les Sforza de Pesaro, les Manfredi de Faenza, les Riarii d'Imola et de Forli, les Varani de Camerino, les Montefeltri d'Urbain et les Caetani de Sermoneta. Cependant, le duc de Valentinois, pour entretenir dans sa chaleur la bonne amitié que lui portait son parent et allié Louis XII, était, comme nous l'avons dit, resté avec lui à Milan pendant le temps de son séjour en cette ville. Mais, après un mois d'occupation en personne, le roi de France ayant repris le chemin de sa capitale, le duc de Valentinois donna ordre à ses hommes d'armes et à ses Suisses d'aller l'attendre entre Parme et Modène et partit en poste pour Rome afin d'exposer de vive voix ses projets à son père et de prendre ses dernières instructions. Il trouva en arrivant que la fortune de sa sœur Lucrèce avait fort grandi pendant son absence, non pas du côté de son mari Alphonse, dont, au contraire, grâce au succès du roi Louis XII, l'avenir était fort incertain, ce qui avait amené un refroidissement entre lui et Alexandre, mais du côté de son père, sur lequel elle exerçait sa tuteur, une influence plus merveilleuse que jamais. En effet, le pape avait déclaré Lucrèce Borgia d'Aragon, gouvernante à vie de Spolète et de son duché, avec tous les émoluments, droits et rentes qui en dépendaient, charge qui avait tellement accru sa puissance et agrandi sa position, qu'elle ne se montrait plus en public qu'avec un cortège de 200 chevaux monté par les plus illustres dames et les plus nobles cavaliers de Rome. De plus, comme le double amour de son père pour elle n'était un secret pour personne, les premiers prélats de l'Église, les habitués du Vatican, les intimes de sa sainteté, s'étaient fait ses plus humbles serviteurs, si bien qu'on voyait des cardinaux lui donner la main quand elle descendait de sa litière ou de son cheval, et que des archevêques se disputaient l'honneur de lui dire la messe dans ses appartements. Cependant, il avait fallu que Lucrèce quittât Rome pour prendre possession de ses nouveaux états. Mais comme son père ne pouvait se passer longtemps de la présence de sa fille chérie, il résolut de se mettre en possession de la ville de Nepi, qu'il avait autrefois donnée, comme on se le rappelle sans doute, à Ascanio Sforza pour acheter son suffrage. Ascanio avait perdu naturellement cette ville en s'attachant à la fortune de son frère, le duc de Milan. Et comme le pape allait la reprendre, il invita sa fille Lucrèce à venir l'y rejoindre et assister aux fêtes de sa remise en possession. L'empressement que mit Lucrèce à se rendre au désir de son père lui valut de sa part un nouveau don. C'était la ville et le territoire de Sermonette qui appartenaient aux Caetani. Il est vrai que ce don resta encore secret, attendu qu'il fallait se débarrasser d'abord des deux possesseurs de cette seigneurie, qui étaient l'un Monsignor Giacomo Caetano, pronotaire apostolique, et l'autre un jeune cavalier plein d'espérance, nommé Prospero Caetano. Mais comme tous deux habitaient Rome et étaient sans défiance, se croyant l'un par sa place, l'autre par son courage, en pleine faveur près de sa sainteté, on jugea que la chose ne présentait pas grande difficulté. En effet, aussitôt le retour d'Alexandre à Rome, sous prétexte de je ne sais quel délit, Giacomo Gaetano fut arrêté et conduit au château Saint-Ange, où il mourut bientôt empoisonné, et Prospero Caetano fut étranglé dans sa maison. En vertu de cette double mort, si rapide qu'elle n'avait donné ni à l'un ni à l'autre le temps de faire un testament, le pape déclara Sermonetta et tous les autres biens relevant des Caetani dévolus à la chambre apostolique, laquelle chambre les vendit à Lucrèce, moyennant la somme de 80 000 écus que son père lui rendit le lendemain du jour où elle les lui avait payés. Quelque hâte qu'eût mise César Borgia, il trouva donc, en arrivant à Rome, que son père l'avait devancé dans le commencement de ses conquêtes. Une autre fortune avait encore prodigieusement grandi pendant son séjour en France, c'était celle de Jean Borgia, neveu du pape, et qui avait été jusqu'à sa mort l'un des plus fidèles amis du duc de Gandie. Au reste, on disait tout haut à Rome que le jeune cardinal devait les faveurs dont le comblait sa sainteté encore moins à la mémoire du frère qu'à la protection de la sœur. C'était deux motifs pour que Jean Borgia devint particulièrement suspect à César. Aussi fut-ce en faisant le serment intérieur de ne pas le laisser jouir longtemps de cette dignité que le duc de Valentinois apprit que son cousin Jean venait d'être nommé cardinal à l'atterrée de tout le monde chrétien et était parti de Rome pour faire une tournée dans les états pontificaux avec une suite d'archevêques, d'évêques, de prélats et de cavaliers tels qu'elle eût fait honneur au pape lui-même. César n'était venu à Rome que pour prendre langue. Aussi n'y resta-t-il que 3 jours et en menant toutes les forces dont sa sainteté pouvait disposer, il rejoignit son armée sur les bords de l'Enza et marcha aussitôt avec elle sur Imola, laquelle, abandonnée de ses maîtres, qui s'étaient retirés à Forlì, fut obligée de se rendre à composition. Imola prise, César marcha aussitôt sur Forlì. Là, une résistance sérieuse l'arrêta, et cependant, cette résistance venait de la part d'une femme. Catherine Sforza, veuve de Jérôme et mère d'Ottaviano Riario, s'était retiré dans cette ville et avait exalté le courage de la garnison en se mettant corps et bien sous sa garde. César vit donc qu'il ne s'agissait plus là d'un coup de main, mais d'un siège en règle. Aussi commença-t-il à faire toutes ses dispositions en conséquence et, plaçant une batterie de canons en face de l'endroit où les murailles lui paraissaient les plus faibles, il ordonna de faire un feu non interrompu jusqu'à ce que la brèche fût praticable. En revenant de donner cet ordre, il trouva au camp le cardinal Jean Borgia, qui se rendait de Ferrare à Rome et qui n'avait point voulu passer si près de lui sans lui faire visite. César le reçut avec toute l'effusion d'une joie apparente et le garda 3 jours près de lui. Le 4e, il réunit tous ses officiers et ses courtisans dans un grand repas d'adieu et, ayant chargé son cousin de dépêches pour le pape, il prit congé de lui avec toutes les marques d'affection qu'il lui avait données à son arrivée. Le cardinal Jean Borgia avait pris la poste en sortant de table lorsqu'en arrivant à Urbain, il se trouva pris d'une indisposition si subite et si étrange qu'il fut forcé de s'arrêter. Néanmoins, au bout de quelques instants, se sentant un peu mieux, il reprit sa route. Mais à peine entré à Rocca Contrada, il se trouva de nouveau si mal qu'il résolut de ne pas aller plus loin et demeura 2 jours dans cette ville. Enfin, sentant un peu d'amélioration dans son état, et ayant appris que Forlì était prise et que Catherine Sforza, en essayant de se retirer dans le château, avait été faite prisonnière, il résolut de retourner vers César pour le féliciter de sa victoire. Mais, à Fossombrune, quoiqu'il eût substitué une litière à sa voiture, force lui fut de s'arrêter une 3e fois. Ce fut sa dernière halte. Le même jour, il se coucha pour ne plus se relever. Trois jours après, il était mort. Son corps fut porté à Rome et enseveli sans aucune pompe dans l'église de Santa Maria del Popolo, où l'attendait le cadavre de son ami, le duc de Gandie, et cela sans que, malgré la haute fortune du jeune cardinal, on en parlât davantage que s'il n'avait jamais existé. Car ainsi s'en allait sombrement et sans bruit tout ce qui était emporté par le torrent des ambitions de cette terrible trinité qu'on appelait Alexandre, César et Lucrèce. Presque en même temps, un autre assassinat épouvanta Rome. Don Giovanni Serviglione, cavalier de naissance et brave soldat, capitaine des hommes d'armes de sa sainteté, fut, en revenant de souper de chez Don Élisée Pignatelli, chevalier de Saint-Jean, attaqué par des sbires dont l'un lui demanda son nom, et comme il le disait, voyant qu'il ne se trompait pas, lui enfonça son poignard dans la poitrine, tandis qu'un autre, du revers de son épée, lui abattait la tête, qui tomba au pied du corps avant que le corps fût tombé lui-même. Le gouverneur de Rome porta plainte de cet assassinat au pape. Mais ayant vu, à la manière dont sa sainteté avait reçu la vie, que mieux aurait valu pour lui n'en point parler, il arrêta les recherches qu'il avait commencées, de sorte qu'aucun des meurtriers ne fut arrêté. Seulement, le bruit se répandit que, pendant le court séjour qu'il avait fait à Rome, César avait obtenu un rendez-vous de la femme de Cerviglione, qui était une Borgia, et que son mari, ayant appris cette infraction à ses devoirs, s'était emporté jusqu'à la menacer, elle et son amant. Cette menace avait été rapportée à César, qui, mettant le bras de Micheletto au bout du sien, avait de Forli frappé Cerviglione au milieu de Rome. Une autre mort inattendue, suivie de si près celle de Don Giovanni Cerviglione, que l'on ne manqua point de l'attribuer, sinon à la même cause, du moins à la même source. Monseigneur Agnelli de Mantoue, archevêque de Cosenza, clerc de la Chambre et vice-légat de Viterbe, étant tombé, sans que l'on sût pourquoi, dans la disgrâce de sa sainteté, fut empoisonné à sa propre table, où il avait passé une partie de la nuit à causer joyeusement avec trois ou quatre convives, tandis que la mort se glissait déjà sourdement dans ses veines. Si bien que s'étant couché en pleine santé, on le trouva le lendemain expiré dans son lit. Aussitôt, trois parts furent faites de ses biens. Les terres et les maisons furent au duc de Valentinois, François Borgia, fils du pape Calixte III, eut l'évêché, et la place de clerc de la chambre fut vendue moyennant 5 000 ducats à Ventour à Benassai, marchand siennois, lequel, ayant versé cette somme entre les mains d'Alexandre, vint le même jour habiter le Vatican. Cette dernière mort fixa un nouveau point de droit en suspens jusqu'alors. Comme les héritiers de Monseigneur Agnelli avaient fait quelques difficultés pour se laisser exproprier, Alexandre rendit un bref qui enlevait à tout cardinal et à tout prêtre la faculté de tester et qui déclara que tous les biens vacants lui étaient dévolus.